Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande 3 trucs cool en 20 minutes. On vous parle de films, de livres, de BD, de jeux vidéo, de musique, etc., etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour m'accompagner, c'est dans cette dernière épisode, dans ce dernier épisode de la session de Positron de Timo et Thomas. Eh bah, ben, ça tombe bien, il y a Timo et Thomas. Comment allez-vous, messieurs?
Toujours aussi bien.
Toujours aussi
et
bien.
Pareil, et pareil. Toujours aussi écoutez, parfait, la vie est belle.
Magnifique. C'est bon, enfin, en même temps, on est un petit peu triste parce que c'est le dernier épisode
de la session.
De cette session glorieuse qui a été inégalable en ce sens que je suis certain qu'elle ne sera pas égalée ni dans, bah, on le sait, dans le passé. C'est-à-dire que Timo, qui avait déjà été présent, a réussi à surpasser.
À se surpasser.
C'est ça, la brillance de la session précédente et l'ajout de Thomas a été a sublimé la qualité de ce qui était déjà quasiment parfait. Et donc, dans le futur, que peut-on espérer si ce n'est un retour à une médiocrité déprimante? Je ne sais pas, mais il vaut mieux ne pas y penser.
Ça va être chaud.
Ouais, ça va être difficile. Mais vous savez quoi? On va pas y penser parce qu'on a encore un épisode complet à passer ensemble, 3 recommandations incroyables. Et on va commencer tout de suite avec un album dont je n'arrive pas à croire que je n'en ai pas encore parlé en plus de 4 ans de positronnage, presque 5 ans d'ailleurs. On a commencé, alors attendez, on a commencé en 2013, c'était en juin, donc bon, on est à 4 ans de positronnage et j'en avais pas encore parlé. C'est vraiment non seulement l'un de mes albums préférés de toute l'histoire, de toute la vie, mais en plus, je pense que c'est l'un des albums les plus importants des années 90. Alors attention, on remonte un petit peu loin quand même, mais ceux qui ont vécu dans les années 90 et qui ont un tout petit peu de goût s'en souviendront et seront d'accord avec moi. Je veux parler bien sûr de l'album, je laisse un tout petit peu de suspense pour savoir si les gens qui écoutent pourront deviner de quel album il s'agit, l'album Dummy de Portishead.
Ah, je pensais que t'allais dire les Spice Girls.
Écoute, j'ai hésité entre les deux. Ceci dit, les Spice Girls ont été très importantes aussi pour d'autres raisons, plus sociétales, mais on pourrait en parler un jour. Mais oui, donc la Dummy de Portishead, album absolument incroyable, séminal, une qualité qu'on ne peut pas nier. Portishead, c'est le groupe qui a lancé, peut-être pas qui a lancé, mais en tout cas l'un des groupes majeurs de la trip-hop, qui a popularisé la trip-hop. Et la trip-hop, c'est un truc qui est presque difficile à définir. C'est un style musical un petit peu électronique, un petit peu pas vraiment hip-hop, mais il y a vous savez quoi, je vais même pas tenter de définir la trip-hop. On va laisser ça à d'autres qui sont plus experts que moi. Ce dont je vais vous parler, c'est donc de Dummy, qui est un album qui pour moi symbolise, représente la mélancolie d'une manière qui est très 90s et en même temps très universel. C'est vraiment ancré dans son époque et en même temps, il y a une, comme dans tous les albums, comme dans toute la musique de qualité, une universalité qui en fait fait que ça survit à l'épreuve du temps. Et c'est pas juste un truc qui est très bien au moment où c'est populaire, mais vraiment on y retrouve une innovation et une émotion qui tient vraiment sur des années après. Quand on parle de titres comme Glory Box ou comme Numb, j'ai pas le setup là, donc je peux malheureusement pas vous les passer. Attendez, je vais voir si je peux faire si je peux les retrouver sur l'iPad et vous le passer avec l'iPad comme ça, juste pour alors que
moi,
vous souveniez.
Glory Box, j'ai un petit souci maintenant, c'est que j'arrive plus du tout à l'écouter sans penser à la pub des produits laitiers des sensations pures, quoi.
Mon Dieu. Ah oui, ça effectivement, c'est une association qui est pas forcément idéale pour Portishead, mais alors attendez. Voyons si on peut le passer. Que ça joue. Voilà. Bon, c'est juste pour rappeler aux gens que ils connaissent évidemment Portishead, quoi. Et évidemment la. Alors attendez. Oh là là, mais ça me rend tout chose là, juste d'entendre quelques extraits. Alors, c'est un évidemment, bon, on va mettre pause, hop, et tout l'album est quasiment aussi bien. Je vais pas passer d'autres morceaux, c'est pas la peine, mais tout l'album est quasiment aussi bien et vous fait vraiment, vous transporte dans leur univers. Alors évidemment, c'est énormément dû à la voix de Beth Gibbons, qui est la chanteuse, mais pas que. Vraiment, il y a toute cette les trois musiciens, enfin les trois principaux de cet album contribuent autant à la qualité du truc, et ils sont que trois, enfin il y a des gens qui font d'autres choses à côté, mais qui contribuent à l'album aussi, mais vraiment le cœur de Portishead est complètement unique et il est aussi assez éphémère, parce que il y a eu deux albums qui étaient bons, Dummy et Portishead, et puis il y a plus rien eu jusqu'au troisième album en 2008. C'était 94-97, et puis plus rien jusqu'en 2008. Et franchement, le troisième est clairement un cran en dessous. Dummy est le meilleur album, je pense. Portishead, donc le deuxième, est très bon, mais celui que je recommande, c'est vraiment Dummy, parce que il est je disais, c'est un album qui est de grande qualité, mais en plus, je trouve qu'il a été un petit peu sous-estimé pendant longtemps et que on a vu beaucoup la musique électronique genre techno et dance dans les années 90, et le grand public n'était pas forcément, enfin bien sûr, Dummy était hyper populaire, mais je veux dire, on n'a pas forcément vu à quel point il était important dans la musique. Dans les années 90, il y a vraiment un avant et un après Dummy pour moi musicalement, comme c'est souvent le cas dans ces grands albums qui font l'histoire de la musique. Dummy fait partie de l'histoire de la musique pour moi. Et donc voilà, il y a cette mélancolie qui est mélancolie en fait qui nous réconforte. C'est une mélancolie réconfortante. Je ne sais pas très bien comment décrire cette qualité particulière de la tristesse dans laquelle on aime bien se vautrer, s'allonger et se laisser envelopper par cette ambiance. Et puis après, on en ressort, et puis bon, ça va un peu mieux, mais il y a ces moments un petit peu de mélancolie qui sont assez uniques dans la manière dont ils sont créés par Dummy. Je sais pas si ce que je dis vous parle ou si c'est cohérent, mais pour moi, c'est vraiment un sentiment très très fort, peut-être parce que je l'ai vécu à l'époque moi-même, mais... Vous connaissez Dummy? Enfin, toi, tu dis pour les produits laitiers, Timo, mais tu le connaissais avant ou...
Ouais, je connaissais déjà avant. J'ai écouté plusieurs fois, mais justement pour l'ambiance qui s'en dégage. En fait, Portishead, j'arrive pas vraiment à l'associer à un morceau en particulier. C'est vraiment... Il y a une atmosphère qui s'en dégage, qui est cette sorte de mélancolie, et que... J'aime bien voir cette ambiance-là quand je bosse parfois ou quand je dessine. Ça me transporte plus facilement. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve très facilement dans ce genre musical quoi, que Portishead a instauré en fait. Hein, que c'est depuis, il y a plein de duplicata plus ou moins bons, mais ouais, c'est, j'aime bien. C'est pas le truc que j'écoute tout le temps, mais quand j'ai besoin de me changer un peu les idées, je vais très facilement basculer dessus, surtout si j'ai besoin de concentration.
Et c'est vrai ce que tu dis, c'est pas juste un titre, ça fait partie de ces groupes. Enfin, c'est vrai qu'on perd forcément, c'est le sens de l'histoire, mais c'est comme ça, c'est pas un jugement de valeur, mais on perd un petit peu cette qualité des albums qui sont des œuvres entières, qui sont cohérentes du début à la fin. Et Demi et Portishead, l'œuvre de Portishead dans son ensemble, a vraiment cette qualité. Oui, il y a des titres qui sortent du lot, qui sont plus mémorables, mais tout l'album te propose effectivement de une heure ou enfin la durée de l'album, un voyage. Et tu y es, tu te laisses porter par les vagues de l'album, et c'est cette qualité est de plus en plus rare aujourd'hui parce que bien sûr on écoute plus de singles que d'albums entiers. Thomas, toi, t'es un partisan de Portishead ou ça te parle moins?
Alors, de nom je connais évidemment. Quand tu passes la chanson, je reconnais. Peut-être aussi à cause de la pub.
La pub, ah mon Dieu, lequel.
D'ailleurs, je suis allé me resservir un verre de lait. C'était très bon. Non. C'est pas le genre que j'écoute souvent. Mais c'est pas du tout un truc qui m'embête. Je suis pas contre. Enfin, j'ai pas le bon mot encore, mais j'écouterai l'album par curiosité.
Moi, je dirais aux gens qui ont écouté, qui ont entendu ce morceau et qui se sont dit ah ouais, ça me dit quelque chose. Vraiment, allez écouter l'album entier. C'est une expérience qui est vraiment unique et qu'il faut avoir. J'exagère peut-être un peu, c'est pas le genre de truc qu'il faut avoir vécu une fois dans sa vie, mais vous en retirez quelque chose, j'en suis certain, quoi. Voilà pour Demi, l'album de Portishead. Okay. Timo, tu nous parles d'un roman.
Ouais, je change un petit peu de registre. Donc, c'est Dark Matter. Alors, je sais jamais si avec un T ou deux T, c'est vrai, Matter. Merci.
Dark Matter
de Blake Crouch. Donc, c'est un petit bouquin. Franchement, ça peut vous prendre un après-midi tranquillement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai commencé, je l'ai torpillé dans l'après-midi. C'est ce qui s'appelle un page turner. Ça a été qualifié comme tel quand c'est sorti. Donc, c'est que quand vous le commencez, vous pouvez pas vous arrêter. Vous le bouffez jusqu'à la fin. Et en effet, hein, l'écriture de Blake fait que tu commences à lire, tu dis ok ça va, et puis tu dis oh putain où est-ce que ça va, comment il va s'en sortir, et de bout en bout, t'as une espèce de tension qui monte qui est assez balèze. Ce sera pas le roman qui va vous changer votre vie ou quoi que ce soit, mais vous avez passé un super moment avec donc Jason qui est un prof de sciences à l'université, qui a une femme plutôt mignonne qui s'appelle Daniela, et un fils Charlie, une vie rangée et paisible, rien de bien passionnant. Jason avant, dans sa jeunesse, c'était une tête en physique quantique, il était promis un avenir monstrueux. Daniela est une superbe artiste aussi qui était censée avoir un gros avenir, mais voilà, Charlie est arrivé, donc leur fils, est arrivé à calmer un peu tout ça. Maintenant, ils vivent leur vie tranquillement, ils repensent des fois un peu à tout ça dans une certaine mélancolie en écoutant du Portishead, mais ils sont heureux, tout va bien, ils sont assez heureux. Mais un soir, Jason, il va se faire enlever, on va le dessaper, le droguer, et à son réveil, on va le prendre pour un éminent scientifique qui vient de vivre un exploit incroyable, qui a réalisé un truc impossible. Lui, il va pas trop comprendre ce qui se passe, et au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'en fait, son monde n'est pas le sien, et il va essayer de chercher comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et comment reprendre sa vie d'avant, parce que sa vie paisible, lui, il l'aimait bien, en fait. Hein. Donc ce roman est découpé vraiment en trois parties. Donc la première, où ça installe la vie de Jason, la seconde, où il se réveille dans l'autre monde, Et la troisième, donc un peu le dénouement où il va chercher, enfin, il va essayer de reprendre sa vie, il va essayer de trouver une solution dans ce grand foutoir qui est devenu sa vie où lui il a l'impression de devenir fou, les personnes qui vivent dans son autre monde commencent à le prendre pour un fou aussi. En fait, tout le monde prend tout le monde pour un fou là-dedans. Hein. Quand tu commences à dire que je viens pas de ce monde, etc., en général, ça se passe pas très très bien. Et cette histoire-là, je peux pas vous en dire plus, sinon ça va énormément spoiler. Y a quelques notions, un peu, ça fait un peu SF, mais pas tant que ça, quoi. Ça parle, on va dire, de science, vu que ça parle de monde parallèle et de physique quantique, etc. Quand t'es une buse en science, franchement, ça va pas du tout te gêner. Tu lis le truc, c'est expliqué de manière très succincte. Hein, donc, tout le monde peut comprendre le principe qu'il y a derrière la physique quantique, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se lit, qui est accessible pour tout le monde. C'est un bon... je pense qu'on peut qualifier ça de
c'est
thriller.
C'est vraiment un thriller, hein. Non c'est ouais. L'impression que j'ai, ouais.
Ouais, c'est un bon thriller. C'est pas super drôle. Enfin, toi, tu rigoles parce que tu te dis, putain, le pauvre, c'est... t'as vraiment pas de bol, quoi. Mais voilà, ça s'enchaîne vraiment de A à Z et je crois que ça va être adapté en film.
Ah, d'accord. Très
et
bien.
Donc,
lisez le livre tout de suite pour pouvoir dire que le livre était mieux quand le film sera sorti.
Voilà,
en fait.
Exactement. Il me semble que une adaptation cinématographique est en pourparlers et quand on lit le roman, on se l'imagine sans problème. On sent que ça peut. On sent limite que ça a été écrit pour du cinéma après, quoi.
D'accord.
Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que sinon je vais spoiler, mais
oui,
ça a été
une
super lecture.
D'accord, très bien. Dark Matter, c'est un roman effectivement, et j'avoue que tu m'as assez intrigué, donc je vais peut-être aller jeter un coup d'œil de ce côté-là.
Le lire avant que ça soit cool.
C'est ça, exactement. En bon hipster que nous sommes tous. Thomas, c'est à toi que revient l'insigne honneur de conclure cette session de Positron avec ta recommandation.
Encore plus de pression. Alors du coup, dans cette session de Positron, on m'aura donné beaucoup de transitions parce que ce coup-ci, tu parlais de physique quantique. Moi, je vais parler de science de manière générale parce que c'était impensable que je passe dans Positron et que je n'en parle pas. Et je voudrais le faire au travers d'un livre qui s'appelle « 17 équations qui ont changé le monde ». Alors rapidement, le livre, ça parle de quoi ? Il va nous présenter 17 équations.
Ouais,
donc,
laisse-moi deviner. il parle de 17 équations qui ont genre changé le monde, quoi. C'est ça,
Positron.
Ah, mais incroyable. Je suis trop fort. Quel non, mais c'est ce qu'on disait, tu vois. On disait déjà précédemment. C'est un métier qui s'apprend, tu vois, podcasteur.
Ah, là,
il y a quand même des années d'expérience. On les sent dans ce que je dis.
On sent les 10 ans. Hein. C'est pas anodin. Et donc, il va présenter une équation par chapitre dans l'ordre chronologique de leur formulation. Et il va nous expliquer le contexte historique de sa découverte, son implication dans les mathématiques et la physique de l'époque. Et j'ai envie de dire peut-être le plus important, son implication concrète dans nos vies de tous les jours, aujourd'hui dans notre quotidien. Et dans la science moderne. Ça permet de faire en sorte que, par exemple, quand quelqu'un va nous dire ah, « mais j'ai pas besoin de connaître le carré de l'hypoténuse pour acheter ma baguette », bah, bon, pour le coup
ça
c'est
va
vrai
prouver
que...
le contraire, là ?
Non, alors, pour cet exemple-là, c'est faux, mais le livre va montrer que
il y a des applications
choses de
concrètes.
Notre quotidien, voilà, des moindres choses de notre quotidien sont toujours, quasiment toujours liées à une équation ou une idée scientifique.
Saviez-vous, par exemple, que sans la relativité générale, les GPS ne marcheraient
pas.
Exactement.
Voilà. C'est ce genre d'implication. Hein. Par exemple, pas par exemple du tout. Je continue. Chaque chapitre se présente de la même façon. Il commence par l'équation et la montre de façon brute. Parfois, on pourrait partir en courant quand on la voit, tellement elles ont l'air extrêmement compliquées, et en fait, elles le sont. Mais directement après, dans un but de vulgarisation d'entrée, il va répondre à trois questions, en trois petits paragraphes. Les questions, c'est ce que cela nous dit, pourquoi c'est important, et à quoi cela nous conduit. Donc en gros, il explique l'équation, qu'est-ce que tous ces chiffres et ces signes signifient concrètement, en quoi ça a révolutionné l'époque, et à quoi ça sert aujourd'hui, en gros. Donc ça, c'est ça, ça rend un peu plus sympathique tous ces monstres mathématiques qui font à moi-même peur quand on les voit. Et donc, au fur et à mesure du livre, on va découvrir que derrière tellement de choses de notre quotidien, comme je disais, que ça soit les avions, les ponts, les radars, la télé satellite, les smartphones, comment ils communiquent entre eux, les lasers, les puces informatiques, l'imagerie médicale, la météo, les sondes interplanétaires, n'importe quoi, la liste est longue, donc absolument tout notre quotidien, il y a une équation. Souvent un mathématicien qui, lui, savait pas trop à l'époque, mais il jouait avec les chiffres et au final, il a lancé une révolution conceptuelle et qui a abouti, parfois 2000 ans plus tard, à une explosion technologique. Par exemple, on pourrait citer... tu parlais de la relativité générale. La relativité générale... On peut la ramener à, j'en parlais encore avant, au théorème de Pythagore, donc avec ce fameux hypoténuse. Il y a un lien direct entre les deux. Le théorème de Pythagore a amené à la relativité d'Einstein, de façon assez indirecte, hein, mais quand même. Et je prendrai peut-être un exemple qui parlera assez efficacement, le chapitre 15. Du bouquin nous parle de la théorie de l'information. Pour le coup, le nom, il fait pas très peur, mais la formule, je peux pas vous la montrer parce que c'est un podcast audio, mais elle a fait assez peur. Mais c'est quelque chose de, encore une fois, intéressant. Mais elle a été formulée en 1949, donc ça va être le tout début de l'informatique. Les premiers, comment dire.
Les premiers ordinateurs, les premiers...
Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, elle a une implication directe sur la création des CD audio, des DVD, des Blu-ray, sur l'intelligence artificielle et sur la cryptographie. Donc, en somme, une bonne partie des sujets... Ouais, voilà. Non, mais une bonne partie des sujets que tu évoques dans ton rendez-vous tech... trouvent leur origine dans une équation qui a été formulée par quelqu'un il y a plus de 70 ans. Quoi. Et qui, sûrement, à l'origine, lui, il n'en avait aucune idée. Il ne savait même pas... Je sais même pas s'il avait pensé un jour à ça. Quoi.
Et donc, c'est vraiment... Ça souligne l'importance de la recherche fondamentale et que parfois, on cherche juste parce qu'on cherche. Quoi. Et voilà. Et
c'est
puis,
ça.
Des
c'est
fois,
ça.
On trouve des trucs et...
Ça peut permettre de dédiaboliser toute les mathématiques et la physique théorique. Alors, je vais pas vous donner les, ou alors je peux en donner deux trois pour rigoler, mais si on parle de formules d'Euler avec des polyèdres, de nombres imaginaires, des équations de Maxwell, les équations de Schrödinger qui sont un peu plus connues, comme ça quand on les prononce et quand on les voit, ça fait peur. Mais en lisant le bouquin, elles vont être expliquées et du coup ça nous amène justement à réfléchir, comme tu le disais, sur l'importance des sciences aujourd'hui. D'ailleurs, c'est presque un sujet d'actualité quand on voit disons certains de l'autre côté de l'Amérique qui n'aime pas trop
effectivement la science est parfois en danger parce que il y a, enfin bon, on pourrait partir sur des considérations très complexes, mais je pense qu'il y a un manque de compréhension effectivement et peut-être que ça peut aider d'avoir ce genre de de vulgarisation.
Pour en revenir à la recommandation, je vais être franc, c'est pas évident en fait. Il faut pas du tout.
C'est pas de la vulgarisation hyper simple à appréhender, quoi.
Voilà, dans ta dernière session de Positron, il y avait Guillaume Vendée qui avait parlé du livre de Micmac. Et alors, j'ai pas lu le livre, mais j'ai regardé quand même de quoi il parlait pour essayer de pas faire doublon. Et de toute façon, Micmac, je connais sa chaîne YouTube, et lui, il est dans la, comment ça s'appelle ? C'est pas le même créneau. Il va te faire aimer les mathématiques parce qu'il va t'en parler de manière rigolote. Et c'est, moi, je suis un grand fan, hein, pour dire clairement. Là, ça va peut-être un petit peu plus loin. Il faut pas se lancer dans le bouquin si on n'a pas un minimum de bagage scientifique. Je parle, comme je disais, pas, il faut pas avoir fait maths sup, maths spé, c'est pas ça du tout. Il faut au moins le vouloir. Il faut être assez curieux sur ce sujet. Ça se lit pas facilement. Pour être clair, le premier chapitre est très simple. Il parle du comment s'appelle du théorème de Pythagore. C'est clairement le plus accessible du bouquin. Si on le lit et qu'on a du mal, vaut mieux pas continuer.
Mieux pas insister. C'est un bon test.
Voilà. Il y a donc certains passages dans le livre.
Un mec qui a eu son bac S avec 3 en maths, il peut le lire ça ou pas?
Oui,
je parle
oui,
pour que... moi. Hein.
Non, mais alors en fait, oui, parce que justement, moi, j'ai aussi fait un bac S et à l'époque, mon professeur, il me parlait de logarithmes, il me parlait des équations différentielles et tout ça. Et il m'en parlait de manière brute et ça m'intéressait pas beaucoup. Et j'ai commencé à vraiment aimer les mathématiques. Avec ce bouquin, en fait, je me dis « Ah, mais les logarithmes, en fait, ça sert vraiment à quelque chose.
»
Il y a une réelle utilité à l'outil, surtout une réalité historique qui a... Bon, enfin, je ne vais pas parler des logarithmes maintenant, mais en fait, ça donne envie d'aimer l'outil mathématique, en fait. Ça donne une autre vision de la chose. Et je trouve que peut-être les professeurs, en tout cas au niveau de l'éducation, ils auraient à apprendre de ce genre de pédagogie, en fait. À quoi ça sert? Ça nous donne envie d'aimer, en fait. D'aimer l'outil mathématique, encore une fois.
D'accord. Ok, bah écoute, j'avoue que là encore, tu m'as vachement donné envie. Et je me dis que moi qui suis en plus assez intéressé par ce genre de sujet, c'est peut-être un truc qui établit une bonne fondation pour comprendre ce qui vient ensuite, quoi. Donc, très bien.
Il y a les chapitres en difficulté, on va dire, ils sont assez inégaux, mais vu que c'est... ils se suivent historiquement, mais ils ne s'impliquent pas forcément l'un et l'autre. Donc s'il y en a un, peut-être que tu vas trouver qui ne t'intéresse pas ou que tu le trouves difficile, tu peux passer au suivant.
D'accord.
Et ça sera une autre histoire racontée.
D'accord. Très bien. Eh bien, merci Thomas et merci Timo. Et voilà, c'est avec une ode aux sciences que nous concluons cette sublime session de Positron. Bien sûr, je vous demande à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver si certains sont déjà nostalgiques et mélancoliques. Quand ils pensent à Positron, ils aimeraient se replonger là-dedans, mais avec d'autres choses. Où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver pour en avoir plus? Commençons par Thomas.
Alors, donc moi, à deux endroits, sur Twitter, @tooto, TOOTOW, où maintenant je reparle de tous ces sujets scientifiques, justement, des petites histoires.
L'engagement est pris. C'est figé dans le bronze maintenant, Thomas. Tu peux plus te défiler.
Voilà. Et alors j'en profite pour faire une pub pour Patrick. On me retrouvera surtout sur le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech.
Ah.
c'est là que je suis le plus présent. En tout cas, au quotidien, on est là. Il y a une petite troupe de personnes très, très hétéroclites, très hétérogènes en tout cas. Il y a plein d'opinions. On parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets. Si vous êtes patriote... et que vous n'osez pas venir, eh ben essayez, parce qu'on vraiment on s'amuse beaucoup. Moi, je sais que même humainement, et je me suis beaucoup enrichi à fréquenter tous ces gens, j'allais dire différents, mais ça fait bizarre comme ça. Mais,
non, mais c'est vrai que... Pardon, vas-y, fini.
Non, vas-y.
Bah, oui, c'est vrai que même moi, au début, quand j'ai lancé le Slack pour les Patriotes du niveau... alors, c'est pour l'émission Le Rendez-vous Tech, pour ceux qui connaissent pas. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent, mais vous pouvez contribuer à l'émission financièrement, et pour ceux qui sont au niveau de $3 ou plus, bah vous avez accès au Slack privé. Donc vous connaissez Slack, hein, il y en a plein un petit peu partout. Et c'est vrai que quand je l'ai lancé, moi je me disais bon, on va voir ce que c'est, ça va peut-être être un peu sympa. Et aujourd'hui, c'est vraiment un endroit cool, sympa où je vais passer du temps avec des gens sympathiques et comme tu le dis, différents, qui ont différentes opinions, différentes idées. On parle toujours, on discute dans le respect et puis. Surtout au-delà de ça, c'est juste un endroit sympa, quoi. C'est comme aller au café du coin et puis on va passer du temps, on discute, on déconne ensemble. Je pensais pas que ça serait aussi cool, quoi. Je l'avoue maintenant.
Mais, non, mais c'est, moi aussi, ça a été une surprise.
Ouais. Mais donc, même sans faire un appel à la contribution financière, où je vous cache pas que je suis toujours heureux de recevoir plus de sous pour la production du Rendez-vous Tech, même sans faire ça, c'est vrai que si vous êtes déjà patriote et que vous contribuez et que vous dites « ouais bon, le Slack, peut-être pas pour moi, vous y êtes passé un petit peu et puis ça vous intéresse pas », réessayez, il y a vraiment une petite bande de gens cool et on s'y amuse bien. Donc, merci pour cette quatrième recommandation de Positron, Thomas. et donc, Timo, c'est à ton tour.
Bah alors, moi, on peut me retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook à @abrutim. Je crois que quand vous tapez Abrutim sur Facebook, vous tombez sur une page que c'est juste marqué Timo. J'ai essayé juste de changer le nom, mais ça a été référencé comme ça. Donc, je parle un peu de tout. Je partage beaucoup de dessins, je partage beaucoup de conneries, mais essentiellement du dessin. En parlant de dessin, je fais des streams tous les jeudis soirs, donc dans une émission qui s'appelle Ink, qui fait partie de tout le panel de Geek Ink. Donc,
l'Empire, tu veux dire.
De l'Empire Geek Ink, exactement. Qui a aussi un Slack super cool. Qui est je sais plus où j'en étais. Merde.
On peut te retrouver, donc tu participes à Ink avec un K, voilà, qui fait partie des émissions de Geek Ink.
Je dessine tous les jeudis soirs, donc avant c'était plus des thèmes par mois sur apprendre à dessiner. Là maintenant, s'il y a vraiment un projet fil rouge dans lequel je dois faire une BD, donc Audrey a écrit le scénar et moi je suis en train de dessiner un peu tout ça en live avec les gens et qui me donnent plein de conseils de partout, c'est assez cool. Et je participe bien sûr à l'émission Geek Ink et je fais d'autres streams, etc. Donc tout ça c'est visible sur twitch.tv/geekink. Et sinon, j'ai aussi une chaîne YouTube, donc Too Many Books, dans laquelle je parle de comics, BD, manga, romans, un peu comme ce que j'ai fait dans certains des positrons ici, en compagnie de cette superbe équipe.
Très très bien. Et donc les liens vers les Twitter seront évidemment dans les notes de l'émission, que vous pouvez retrouver partout dans votre lecteur de podcast ou sur frenchspin.fr, le site qui héberge toutes les émissions que je produis en français. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter, NotPatrick, et sur Facebook, NotPatrick. Et si vous aimez bien ce type d'émission, peut-être que vous aimerez les autres. Donc, je vous encourage à aller explorer frenchspin.fr et peut-être même frenchspin.com. Si vous voulez des émissions en anglais, oh, incroyable, il y a aussi des émissions en anglais qui sont disponibles là-bas. Dans tous les cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, est-ce qu'on va faire la pause estivale? Est-ce qu'on va pas faire la pause estivale? Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, on reviendra et ça sera, j'espère, au moins au 10e de la qualité de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais même pour ça, j'ai pas de gros espoirs. Mais bon, on verra. On essaiera en tout cas. À très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Don't walk, 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 don't wal
you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.